se partager la bouteille. Voilà, moi je vais jouer un petit peu le rôle de la naïve ici pour vous demander de nous dire tout ce que vous savez sur Calvin, car j'avoue que je voudrais tout savoir ce soir et que je n'en connais pas beaucoup. Et je voudrais notamment l'opposer au personnage que je connais le mieux, qui est Thomas More, qui lui est mort pour la foi catholique. Et puis je voudrais bien savoir quelle est la différence entre la position de Luther et de Calvin, quelles étaient leurs différences. Et j'aimerais bien savoir aussi en quoi consistait sa foi, dans la sola fide, dans la foi seulement, et quels étaient ses espoirs de salut, puisqu'on parle de prédestination, et que ça m'a toujours laissé un peu pantois.
Voilà. Oui, je voudrais vous dire combien je suis heureux de me retrouver parmi vous ce soir. Il y a maintenant quelques mois, mon ami Max Chalet, donc des éditions de Paris, mais que on a longtemps évidemment associé aux presses du Languedoc, puisqu'il tenait cette première maison, les presses du Languedoc, à Montpellier, et qui rayonnait très largement sur l'ensemble de cette région-ci, m'avait dit: écoute Bernard, il y a une librairie extraordinaire qui vient de se créer à Alès. Et Max, comme d'habitude, Max est quelqu'un de chaleureux, il m'a tout de suite fait partager son intérêt pour cette librairie que je viens de découvrir ce soir avec énormément de bonheur. Parce que je voudrais dire au directeur de cette librairie que vous avez là un fonds tout à fait exceptionnel par la qualité et exceptionnel par le nombre de titres même. Et je crois qu'il y a peu de librairies en France en général. Je parle de librairies qui se trouvent dans des centres-villes. Je ne parle pas évidemment de la diffusion par Internet et autres, mais il y a sans doute peu de librairies qui peuvent vous offrir un fonds équivalent au vôtre, et j'ajouterais que malheureusement, beaucoup de libraires maintenant, pour toutes sortes de raisons, je ne suis pas là évidemment pour porter des jugements de valeur, mais beaucoup de libraires ont renoncé même à cette idée de fond et se contentent d'avoir les livres qui sont parus depuis 2-3 mois. Évidemment, c'est épouvantable parce que l'intérêt d'un livre, généralement, ne se limite pas à la stricte période de sa réception. Et je crois qu'il y a là une entreprise extraordinaire, et si je peux, par ma seule présence, encourager un peu ce genre d'activité, je voudrais le faire ce soir, et vous adresser évidemment toutes mes félicitations pour le courage avec lequel, avec vos amis évidemment, vous entreprenez cette activité. Alors évidemment, parler de Calvin, lorsque votre librairie elle-même rend hommage à Calvin en s'appelant la librairie Calvin, c'est tout à fait approprié ici. Et ce qui est extraordinaire chez Calvin, pour reprendre les questions multiples de Madame Philippot que je suis content de revoir ici, parce que je l'ai vue dans des circonstances moins agréables peut-être pour elle, puisque j'étais le président de son jury de thèse, mais enfin ça s'est très bien passé, puisque vous avez eu votre thèse avec tous les honneurs et avec les félicitations du jury, comme vous le savez. Donc très belle thèse qui était consacrée à Thomas More. Et c'est vrai que l'idée d'une confrontation entre ces deux géants du XVIe siècle, qu'ont été Thomas More l'auteur de l'Utopie, et Thomas More le saint aussi, le saint catholique qui a osé défier le roi Henri VIII, et Calvin, je crois que cette confrontation est tout à fait intéressante. Alors il y a d'autres très grandes figures du XVIe siècle dont nous ne parlerons peut-être pas ce soir. Il y a Luther, dont il faut dire deux, trois mots, évidemment, et puis il y a aussi Ignace de Loyola, et je crois qu'il y a, dans ce XVIe siècle, effectivement, une sorte de condensé, justement, d'héroïsme chrétien, auquel on associe ces différents non. Alors, d'une certaine façon, Calvin est peut-être le moins héroïque. Je veux dire que Calvin n'est pas mort martyr. Voilà. À la limite, il est possible qu'il ait encouragé certains à le faire à sa place. Ce sont des choses qu'il est toujours plus facile de conseiller aux autres que de faire soi-même. Mais je crois qu'il n'en est pas moins vrai qu'il y a chez Calvin un courage absolument extraordinaire, un courage d'ailleurs qui est tout à fait protestant dans son inspiration, parce que c'est le courage de dire non. Et pour moi, Calvin, c'est d'abord celui qui a su dire non, qui a su dire non à la France de son temps et qui a assumé une dimension tout à fait essentielle du protestantisme français, en particulier à partir du XVIe siècle, je veux dire l'exil et ce que l'on appelle, d'un mot plus général, le refuge. Et donc, Calvin a été l'un des tout premiers protestants français à se réfugier à l'extérieur du royaume, à Strasbourg, pendant quelques années, et puis essentiellement, évidemment, à Genève. Et donc, Calvin, eh bien, l'œuvre de Calvin, c'est l'œuvre de quelqu'un qui a exhorté ses compatriotes à la résistance, résistance qu'il faut comprendre ici, non pas sur le plan militaire, mais sur le plan religieux, et osons un autre terme, sur le plan spirituel. Et c'est ce Calvin de la résistance spirituelle qui, personnellement, m'a interpellé il y a une vingtaine d'années, lorsque j'ai eu formé le dessein de travailler sur Calvin, parce que je crois qu'il n'y a de culture qui tienne que dans la résistance, et je crois que de plus en plus, hélas, la culture devient un pôle de résistance, puisque nous sommes dans un monde de plus en plus, pardonnez-moi l'expression, crétinisé.
C'est intéressant que vous parliez justement du goût de la résistance et de l'homme qui sait dire non, parce que ce sont exactement les mêmes arguments qu'avancent des amis que je connais et qui s'en prennent à Thomas More et le prennent comme leur modèle. Encore aujourd'hui, parce que c'est l'homme qui a su dire non. C'était tellement facile de dire oui, je signe et je prête serment au fait que le roi soit maintenant le chef de l'Église en Angleterre. Et lui n'a jamais voulu cela et est allé jusqu'au bout de sa ligne de conduite. Et donc l'homme qui sait dire non. J'ai trouvé d'ailleurs, en m'intéressant un petit peu à Calvin, qu'il y avait beaucoup, beaucoup de lignes parallèles et de ressemblances entre ces deux hommes, notamment dans leur résistance, effectivement.
Oui, il y a Thomas More et Calvin, avec tout ce qui les sépare. Mm. D'abord, ils n'appartiennent pas à la même génération. Donc Thomas More appartient à une génération antérieure, ont beaucoup de choses en commun. La première de ces choses, c'est que ce sont des laïcs. Oui. C'est-à-dire que Thomas More a été très tardivement, canonisé par l'Église catholique au XXe siècle, parce que dans le fond, il était un petit peu gênant, et on ne sait pas très bien qui on a canonisé. Est-ce que c'est l'auteur de l'Utopie qu'on a canonisé? Je n'en suis pas sûr.
Sans doute pas, non.
Est-ce que c'est effectivement la victime d'Henri VIII? Je le crois davantage. Donc, première caractéristique commune à ces deux personnages si différents par ailleurs, je crois que c'est le fait d'avoir été l'un et l'autre des, entre guillemets, des saints laïcs.
C'est ça. Et ils avaient fait des études de droit.
Et d'avoir fait des études de droit.
Ça aussi, c'était très étonnant.
C'est très, très intéressant, parce que la culture à laquelle, personnellement, je suis attaché est une culture éminemment laïque et qui trouve, effectivement, très souvent dans le droit et chez les juristes l'une de ses inspirations. Et je trouve remarquable que, contrairement à Luther, et ce n'est pas du tout pour décrier Luther,
vous comprenez bien,
mais contrairement à Luther, qui lui, évidemment, a une formation beaucoup plus classique de prêtre et de religieux, Calvin, lui, n'a pas fait d'études de théologie en tant que tel. Calvin a fait des études de droit. Et c'est en juriste, essentiellement en juriste et en humaniste, effectivement, qu'il a repris les grands textes de la révélation judéo-chrétienne. Et je crois qu'il y a là quelque chose de très intéressant, qui n'est pas uniquement anecdotique, parce que c'est toute une perception de la Bible et de l'Écriture qui en découle dans le cas de Calvin.
On peut peut-être parler justement de leur goût l'un et l'autre pour la lettre, pour la Bible. Je me suis intéressée à William Tyndale assez récemment, qui a traduit la Bible de façon remarquable. Et je remarquais que chez Calvin, ce goût des belles lettres et de la formulation poétique et exacte était aussi partagé par Thomas More et par d'autres qui se sont intéressés à la traduction de la Bible. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cela et de son exigence littéraire vis-à-vis des textes sacrés ?
Il y a un phénomène très important au XVIe siècle, c'est l'éclatement évidemment de la chrétienté romaine telle qu'on la connaît pendant plusieurs siècles d'ère chrétienne. Ce n'est pas la première fois, contrairement à ce que l'on dit parfois, ce n'est pas la première fois qu'il y a des tensions de cette nature à l'intérieur du christianisme. Ça, je crois que c'est une idée un petit peu fausse, celle qui voudrait qu'un christianisme unifié se soit de plus en plus divisé. Je crois que l'histoire est beaucoup plus complexe et que la division du christianisme, elle remonte au 1er siècle. Ça, c'est mon point de vue. Et puis, il y a eu évidemment d'autres mouvements avec la rupture avec les églises d'Orient, etc., avec l'orthodoxie, bon, pour faire vite. Ce qui est vrai au XVIe siècle et qui, à mon avis, est intéressant, c'est que les cultures nationales s'affirment. Les cultures nationales s'affirment, les langues nationales s'affirment, et il y a là évidemment un très grand défi pour une religion qui a été une religion qui a été façonnée évidemment par des siècles et des siècles de pensée latine. Et face à cet éclatement, un certain nombre de grands esprits se sont décidés à traduire la Bible dans la langue qui était la langue du peuple. C'est dans le fond, ni plus ni moins, l'idéal humaniste, et c'est l'idéal de ce grand ami de Thomas More, qui est Erasme, lorsqu'il dit qu'il souhaite que le laboureur à sa charrue connaisse effectivement la philosophie de Jésus-Christ, qu'il appelle la philosophia Christi. Donc là, il y a une donnée qui est générale au XVIe siècle. Mais, face à ces bonnes intentions affichées,
oui.
Il y a eu malheureusement des réactions beaucoup plus négatives. Et ce pauvre Tyndale dont vous venez de parler, qui était un humaniste un peu de la même génération que Thomas More, un peu plus jeune que Thomas More, ce pauvre Tyndale va voir son évêque et lui dit « Écoutez, je suis à votre disposition pour traduire l'écriture sainte en anglais. » Et à ce moment-là, eh bien, il s'aperçoit qu'il se heurte à un refus considérable. Et donc, ce qui apparaissait dans le fond comme l'un des aboutissements de la culture humaniste va d'un seul coup se heurter à un terrible refus que je voudrais qualifier devant vous de clérical. C'est-à-dire que, à mon sens, il y a effectivement une cléricature, à tous les sens du terme, vous pouvez l'entendre, il y a effectivement une cléricature qui a le sentiment qu'elle va être dessaisie de son monopole. De son monopole interprétatif, et que si vous donnez l'écriture à lire aux laïcs, eh bien, on ne sait pas où va s'arrêter leur liberté.
C'est ça, oui.
Donc il y a effectivement des craintes très fortes qui se font jour en Angleterre, ce qui fait que Tyndale doit fuir l'Angleterre, s'installe à Anvers. Il s'installe à Anvers pour des raisons simples, c'est qu'il y a beaucoup de commerçants anglais qui se trouvent de l'autre côté de la mer du Nord. Et donc il va à ce moment-là écrire sa traduction avec des préfaces très intéressantes depuis Anvers. Et Thomas More répond à son tour. Thomas More, qui est un agent d'Henri VIII, va tout simplement condamner effectivement les idées de Tyndale. Donc Thomas More, le grand Thomas More, prend peur à son tour de la traduction de Tyndale et va contredire cette traduction sur un certain nombre de points qui sont tout à fait décisifs, parce que le point de vue évidemment de Tyndale, c'est que ce n'est pas l'Église qui fonde l'Écriture, mais c'est l'Écriture qui fonde l'Église. Ça, vous allez me dire, c'est un peu la poule et l'œuf.
Oui, 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 mais tout de même.
Mais je crois qu'au XVIe siècle, dire c'est l'Écriture qui fonde l'Église, c'est évidemment perçu comme une puissante contestation du monopole interprétatif de l'Église, et en particulier de l'Église romaine. Et à ce moment-là, ce grand esprit qui est Thomas More, c'est pas du tout pour diminuer ses mérites, mais prends peur, parce que, avec beaucoup d'intelligence d'ailleurs, il a compris quelque chose de décisif était en train de se jouer. Alors, l'argument de Thomas More est un argument extrêmement savant. Et l'argument de Thomas More, en quelque sorte, c'est que, oui, vous, protestants, si je peux employer le terme, qui est un terme un peu anachronique, mais enfin, vous, protestants, vous, partisans de l'écriture, vous, partisans de l'écriture seule et du recours à la seule écriture, eh bien, il y a une chose que vous ne voyez pas, c'est que il y a une partie du message qui n'a pas été transmise par l'écriture elle-même, mais qui a été transmise dans quelque sorte de bouche à oreille. Et donc, vous ne pouvez pas prétendre que l'écriture seule peut fonder l'Église. Pour fonder l'Église, il faut un autre élément, la tradition. On a là une opposition qui dure jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, entre le protestantisme et son insistance sur l'écriture seule, et le catholicisme, évidemment, et son introduction de la tradition. Et je crois que le point de vue de Thomas More est intéressant, même si, personnellement, je préfère le point de vue de Tinder.
Je vous laisse oui, je comprends.
En toute
oui.
amitié pour vous.
Je n'ai pas épousé Thomas More. J'ai juste étudié.
Mais je veux dire, non, mais c'est un point de vue, ce que je veux dire, c'est un point de vue extraordinairement intelligent. Et en même temps, vous savez qu'on a le même genre de débat à propos des philosophies de l'Antiquité. Savoir quelle est la part de l'enseignement philosophique qui se faisait de bouche à oreille entre initiés et la part qui, effectivement, était confiée au texte. Oui. Et on peut penser que tout n'a pas été confié au texte. Ça n'est pas en soi un argument absurde. Intellectuellement, ça me paraît tout à fait tenir. Il n'en reste pas moins que j'aime mieux le geste de Tyndale et que Tyndale a été brûlé avant que Thomas More n'ait le cou coupé. Mais au XVIe siècle, on aimait bien ces mesures un peu expéditives. Oui. Calvin, je vous rassure, il ne lui est pas arrivé de pareilles mésaventures.
Il y avait le poids aussi de la patristique, la réflexion de tous les pères de l'Église qui s'ajoutaient, qui eux avaient disons la caution de la tradition, comme vous disiez, et qui donc ajoutait à l'écriture tout ce qu'il fallait en comprendre et qui avait déjà, je dirais, digéré le message un peu. Et donc pour Thomas More, c'était très très important que d'écouter Augustin, plus important certainement de lire Augustin que de lire certains passages de la Bible qui pouvaient être en contradiction les uns avec les autres.
Non, le point de vue de Thomas More est un point de vue d'humaniste, un point de vue d'érudit et tout à fait remarquable. Et c'est vrai que voir ce laïc catholique arriver à un tel degré d'acribie, c'est tout à fait extraordinaire pour le XVIe siècle.
Et si vous nous parliez de ce qui me préoccupait le plus, moi, quand on a parlé de Calvin, c'était la prédestination, sa théorie de la prédestination.
Alors, je vais vous faire rire.
Oui,
je vais vous faire rire. Est-ce que je peux vous faire rire? Je me souviens... Enfin, je vais essayer. Je me souviens d'une émission de radio sur une radio très parisienne, en fait, qui s'appelle Radio Notre-Dame. Je dis très, très, très parisienne parce que, effectivement, c'est une radio qui avait été caricaturée à l'époque comme Radio Lustiger. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Mais j'ai parlé plusieurs fois sur les ondes de Radio Notre-Dame avec des bonheurs divers. Et cette fois-là, je venais d'écrire mon livre sur Calvin, dont il a été question tout à l'heure, et le présentateur, à un moment, n'y tenant plus, me dit « Mais enfin, écoutez, la prédestination, ça doit vous terrifier et vous empêcher de dormir. » Généralement, ce n'est pas le genre de sentiment que j'inspire, si vous voulez. Mais enfin, j'étais quand même très étonné, très très intéressé par son point de vue. Et je crois que la prédestination, on peut la comprendre sur plusieurs plans. Je ne vais pas ici insister sur tous ces plans. Alors, le premier plan, c'est le plan théologique, et je voudrais dire que je ne vais pas vous parler de ce plan théologique tout de suite pour plusieurs raisons. Et fondamentalement parce que je suis historien, que ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que la prédestination a pu signifier sur le plan historique.
D'accord.
Et puis, il y a aussi, pour la prédestination, une dimension qui est une dimension très personnelle dans le cas de Calvin. C'est-à-dire que Calvin lui-même a insisté effectivement sur la prédestination dans ses écrits, en particulier dans son institution, que de façon un petit peu contestable, à mon avis, sur le plan historique, on a fait de la prédestination le cœur même de la théologie de Calvin. Je crois que la prédestination est l'un des aspects de la théologie de Calvin, mais il y en a beaucoup d'autres. Et il y a un usage que, personnellement, je trouve contestable, en particulier dans les pays anglophones, que vous connaissez bien. Il y a un usage qui consiste à employer le terme calviniste dès qu'il s'agit de prédestination. Le calvinisme, c'est la prédestination. Je crois que c'est quand même au moins un raccourci historiquement. Ceci dit, la prédestination se trouve chez Calvin. Elle est réaffirmée par Calvin dans un contexte qui est très souvent un contexte polémique, mais ce ne sont pas les seules polémiques de Calvin. Et à mon avis, il y a une sorte de fixation de Calvin sur ce dogme de la prédestination. C'est-à-dire que Calvin, face à ses adversaires, en vient à avoir des positions de plus en plus rigides, en particulier sur cette question de la prédestination. Alors évidemment, l'historien lui constate ce phénomène et il peut se poser la question légitimement de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que justement, d'abord Calvin en arrive à insister tant sur la prédestination et deuxièmement, pourquoi est-ce que de façon à mon avis totalement fallacieuse, on en arrive à faire de la prédestination qui est l'un des articles de Calvin, on en vient à en faire le cœur même du calvinisme. À mon avis, il y a une explication qui est très, très simple sur le plan historique. Ce n'est pas la seule, il y a aussi des explications théologiques, mais là, je fais de l'histoire. Il y a une explication de type psychologique, c'est que Calvin ne sait pas comment expliquer son étonnant parcours autrement que par la prédestination. C'est-à-dire que Calvin, qui, comme on vous l'a rappelé très bien tout à l'heure, que comme Calvin n'a jamais reçu la moindre consécration pastorale, comme Calvin n'est pas un théologien, comme Calvin n'est pas un prêtre qui se serait reconverti dans le pastorat, il faut bien trouver une explication à cette vocation extraordinaire qu'il a ressentie et qu'il anime. Et donc je crois que la prédestination, c'est d'abord l'expérience de l'élection. Calvin traduit par ce dogme de la prédestination ce que lui-même ressent très intérieurement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il en arrive à cette espèce de fixation sur la prédestination. Il a été appelé, malgré lui, non pas en raison de ses mérites propres, mais pour une raison qui reste totalement mystérieuse. Et c'est là qu'il compare sa vocation, effectivement, à la vocation de Jonas. La figure de Jonas est sans doute, comme j'ai essayé de le montrer dans mon livre, est sans doute la figure la plus importante de la Bible pour comprendre la vocation de Calvin. Calvin a été appelé. Pourquoi Calvin a-t-il été appelé? Il ne le sait pas. Donc il y a premièrement l'itinéraire propre de Calvin. Et puis, derrière Calvin, vous avez l'itinéraire d'une génération. Vous avez l'itinéraire de tous ces gens qui ont suivi Calvin. Qui ont suivi Calvin, il faut bien le dire, dans l'adversité. Et je pense que ce sentiment de la prédestination, il était vécu au XVIe siècle de façon essentiellement positive.
Oui, c'est ça.
Donc je crois qu'il faut faire attention à une erreur d'appréciation qui consisterait à interpréter, si je peux dire, la prédestination du point de vue des damnés.
Mais oui, c'est ce qu'on pense. On pense à ça, bien sûr.
Non, il faut interpréter la prédestination du point de vue des élus. Donc on est essentiellement heureux d'être prédestiné. On est peut-être malheureux de ne pas l'être. Enfin, essentiellement heureux d'être prédestiné. Alors, ça va très loin. Vous allez voir pourquoi. Parce que cette doctrine de la prédestination, qui à mon sens est parfaitement scripturaire, Cette doctrine de la prédestination, qui a été revisitée par saint Augustin, comme vous le, comme vous le savez.
Beaucoup sont appelés et peu sont élus, ce serait
absolument, ça ? Absolument. Cette doctrine de la prédestination, en fait, elle a connu dans l'histoire du christianisme des interprétations divergentes. Et il y a une deuxième grande série de questions sur la prédestination, à peu près contemporaine, au XVIIe siècle, dans le catholicisme français, en particulier, pas uniquement français, avec le jansénisme. Et les jansénistes, eux aussi, parce qu'ils sont des lecteurs de saint Augustin, entre autres, les jansénistes, eux aussi, parlent de prédestination. Mais la prédestination calviniste, si je peux dire, et la prédestination janséniste sont totalement différents, parce que la prédestination calviniste, si vous me permettez, est une prédestination heureuse. Alors que la prédestination janséniste est une prédestination très malheureuse, parce qu'on ne sait pas précisément si on est prédestiné. Alors que dans le calvinisme ultérieur, en particulier en Angleterre, quand vous arrivez à la confession de foi de Westminster de 1646-1647, au moment de la Révolution anglaise, vous vous apercevez que de plus en plus, les élus ont le sentiment de leur élection. Et il y a même une formule extraordinaire dans cette confession de foi de Westminster, c'est que les élus ont le sentiment infaillible de leur élection. An infallible feeling of their election. On a là quand même quelque chose de très, très spectaculaire. Et à mon avis, donc, point de vue que je vous donne, qui n'est pas un point de vue de théologien, je pense que les théologiens auraient d'autres choses complémentaires à dire, qui est un point de vue d'historien qui se demande, dans le fond, pourquoi, historiquement, la prédestination au XVIe siècle, pourquoi est-ce que cette prédestination au XVIe siècle a intéressé à ce point-là Calvin, pourquoi est-ce qu'il s'est senti à ce point concerné par elle, et pourquoi est-ce que toute une génération a suivi le même itinéraire. Et là, à mon avis, on a quelque chose d'extraordinairement important à étudier. Alors, généralement, comme nos compatriotes, et j'étais heureux de ce qui a été dit tout à l'heure par le directeur de votre médiathèque, manquent cruellement de culture religieuse, très souvent, vous savez ce que je dis souvent à mes petits étudiants, un morceau de Jésus, un morceau de Bouddha et on touille. C'est un petit peu la même chose. La prédestination, c'est pas très bien si on parle de la prédestination selon Jansénus, selon saint Augustin, selon saint Calvin. Je veux dire, c'est une espèce il y a une espèce d'emballage comme ça qui recouvre des réalités, à mon avis, qui sont des réalités assez hétérogènes. Et je crois qu'il faut prendre les choses véritablement au sérieux et il faut lire véritablement les textes. Dans le fond, c'est pour ça qu'il faut faire des livres, et c'est pour ça qu'il faut les vendre et c'est pour ça aussi qu'il faut les acheter.
Mais alors la question du salut, je me suis beaucoup intéressée à la question du salut et en étudiant Thomas More, on voyait à quel point l'angoisse du salut était terrible à ces époques et tout pendant le Moyen-Âge. Et peut-être était-ce le fait que Thomas More est encore assez médiéval par beaucoup de côtés. Néanmoins, cette angoisse du salut me paraissait quelque chose qui les empêchait presque de vivre ou au contraire qui guidait absolument toute leur vie puisqu'il fallait se montrer sinon infaillible, au moins le meilleur possible pour avoir le salut, et puisqu'on ne savait pas si on serait élu avant d'avoir fait de bonnes œuvres. Alors c'est là que les choses changent radicalement, quand on sait qu'on peut être élu malgré tout, et tout pécheur qu'on est. Et là, et je comprends comment Thomas More, ayant fait ses efforts toute sa vie pour arriver à la porte du paradis, ne va pas à la fin tout gâcher en signant un petit bout de papier, alors qu'il s'en va en enfer. Pour lui, c'est comme ça, il voit vraiment la vérité de l'au-delà en ces termes, complètement opposés, binaires et simples.
Oui, la question du salut à nouveau se prête évidemment à toutes sortes d'analyses qui seraient des analyses de théologiques, des analyses de théologiens. Et moi, je ne peux pas évidemment prétendre ici faire la synthèse de tous ces points de vue. Mais à nouveau, je vais vous proposer une interrogation qui est une interrogation de type historique. Il est vrai que au début du XVIe siècle, je dirais au début du XVIe siècle, un peu avant Calvin naît en 1509, donc c'est la génération qui précède, qui est davantage la génération de Luther et la génération de Thomas More, il y a une véritable obsession du salut. Vous savez, la belle formule de Lucien Febvre à propos de Luther, lorsqu'il dit que Luther est d'abord un moine en quête de son salut. Je crois que cette quête du salut est une caractéristique, effectivement, de la religion du Moyen-Âge tardif. Alors, pourquoi, là aussi, les historiens constatent les phénomènes, il n'est pas sûr qu'ils puissent toujours trouver des réponses parfaitement adéquates. Mais je crois, ce que je dis n'est pas nécessairement original d'ailleurs, je ne suis pas le seul à le croire, je crois que la grande coupure dans l'histoire occidentale, ça a été la grande peste du XIVe siècle. Grande peste du XIVe siècle parce que, imaginez ce qu'est un monde dans lequel vous voyez disparaître le tiers de l'humanité. Je crois qu'il y a là quelque chose d'absolument ahurissant. Et les hommes du XIVe siècle ont été confrontés effectivement à cette disparition de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs proches, de leurs amis, etc. Eux-mêmes craignaient en permanence pour leur vie. Que, j'ajouterais que la peste s'installe durablement au XIVe siècle et qu'elle n'est éradiquée qu'au XVIIIe siècle, la dernière grande peste étant en 1720 à Marseille. Et je crois que cette obsession du salut, elle est liée directement à la vision de la mort, à cette proximité de la mort. Est-ce que dans des périodes plus tardives, on retrouverait des phénomènes comparables ? Oui, j'ai une amie qui travaille, Annette Becker, qui travaille sur la guerre de 14 et sur la religion de la guerre de 14. Et vous avez un phénomène comparable, oui, au moment de la guerre de 1914. Vous savez, il y a beaucoup de phénomènes de conversion pendant la guerre de 14. Et je crois que quand vous êtes entouré de gens qui meurent, d'une certaine façon, la séparation entre les vivants et les morts tend à s'estomper. Et je crois que cette obsession du salut, à partir du XIVe siècle, effectivement, elle est directement liée à cette expérience quotidienne de la mort, de la peste. Alors, vous, évidemment, sur le plan pictural, sur le plan esthétique, vous en avez de nombreuses illustrations, toutes ces églises, tous ces gisants. La religion flamboyante, pardon d'une expression qui peut paraître triviale, c'est du christianisme qui saigne.
Oui, oui.
Bon, le christianisme qui saigne à partir du XIVe siècle, ces descentes de croix, ces scènes absolument épouvantables, c'est effectivement quelque chose de très durable. Alors, le protestantisme, à partir de là, s'inscrit dans la continuité, c'est-à-dire qu'il reprend cette obsession du salut, mais justement, il va lui donner un contenu radicalement différent.
Ah oui.
Et le protestantisme saigne beaucoup moins.
Oui.
Du moins au XVIe siècle.
Et est-ce qu'on n'a pas une vision de finalement l'homme étant tellement pauvre et petit que quoi qu'il fasse, enfin c'est ce qu'on lit chez Luther, quoi qu'il fasse, il ne mériterait jamais le salut, donc finalement
totalement.
C'est Dieu qui s'en
Mais
occupe.
Mais ça c'est profondément libérateur,
c'est ça.
Parce qu'effectivement ce n'est pas à cette église-là de me décerner d'un brevet de salut. Je n'ai pas droit au salut parce que l'Église a décidé.
Oui.
Mes œuvres n'y peuvent rien. Et on a, à mon avis, le génie de Luther, parce que j'ai beaucoup aimé Calvin, mais je persiste à penser qu'il y a chez Luther des passages d'une extraordinaire fulgurance. Et le Luther, il y a aussi des moments un peu contestables. Mais chez Luther, il y a quand même cette intuition absolument fondamentale qui fonde sa théologie. Le juste est également le pécheur.
Oui.
Simul justus et peccator. Comme le disait un ami pasteur qui avait longtemps vécu en Afrique du Nord, tout est dans le simul. Tout est dans le simul. Simul justus et peccator. Le juste est également le pécheur, et d'une certaine façon, le pécheur est également le juste.
C'est ça. Donc on a droit d'être pécheur pour une fois, et on ne va plus penser qu'on est damné.
Mais ce n'est pas parce qu'on est pécheur qu'on est damné.
Voilà.
ça c'est donc profondément, c'est profondément libérateur.
C'est libérateur.
Et je vais vous dire que cette religion flamboyante, pour reprendre l'expression de Jacques Chiffolo, des 14e, 15e siècles, elle s'accompagne d'une inflation du sacré. Ah oui. Donc vous avez des fondations pour dire des messes à perpétuité. Mm-hmm. Plus on va dire de messes, plus on va être sauvé.
Oui,
ce qui, évidemment, paraît totalement incongru à Luther.
Oui, puisqu'on ne peut rien pour les morts, le purgatoire n'existant pas. Et ça, c'était la grande différence, et sur laquelle Thomas More s'est vraiment mis en colère, puisque, mais non, on va continuer de prier pour nos morts qui n'attendent que ça. Et la supplication des âmes du purgatoire, comme il a écrit, elles sont là. Il a dramatisé la chose. Elles sont en train de réclamer vos soins, vos prières, parce qu'elles brûlent. Elles brûlent dans le feu éternel, qui ne sera pas éternel si vous priez pour elles. Alors ça, qu'on remette ça en cause, lui paraissait une aberration. Comment on meurt encore pécheur et personne ne pourra rien pour nous. Et ça, bon, c'est là-dessus que s'opposent vraiment Luther, Calvin. Et pourquoi ont-ils refusé le purgatoire et cette idée qu'on ne pouvait plus rien? Pourquoi ont-ils refusé l'idée qu'on pouvait quelque chose pour les morts?
Alors, le refus du purgatoire... ce sont des choses dont je parle souvent avec mes petits étudiants.
Oui.
Enfin, petits, il y en a qui sont très grands. Mais par l'âge, mes étudiants de 24-25 ans, parce que ça les choque très profondément de découvrir l'aspect mercantile de ces prières pour les âmes du purgatoire. Vous savez que... cette admirable basilique Saint-Pierre de Rome a été en partie construite grâce à cet argent. Enfin bon, l'argent n'ayant
l'argent
pas d'odeur.
Des indulgences. Vous parlez des indulgences.
Des indulgences, tant mieux d'une certaine façon. Si tout l'argent capté par la crédulité pouvait comme ça aboutir à des œuvres d'art, écoutez, nous serions très heureux. Malheureusement, ça n'est même plus le cas à l'heure actuelle, et il y a une autre exploitation de la crédulité. Il y a une sorte d'industrie du purgatoire au début du XVIe siècle. Bon. Vous connaissez l'anecdote, il y a ce brave dominicain allemand qui s'appelle Tetzel, et qui donc parcourt l'Allemagne, en particulier l'Allemagne du Sud, en vendant des indulgences avec un petit, ce qu'on appelle en langage publicitaire, un jingle, c'est-à-dire, vous savez, ces phrases publicitaires que l'on retient, Casto, Castorama, enfin, etc. je ne ferai pas de publicité.
Non,
ici. Alors donc, lui, sa formule est très simple, c'est aussitôt que l'argent sonne dans la caisse, l'âme sort du feu. Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Festfeuer springt. Voilà. Alors évidemment, il y a ceux qui y croient. Et je veux dire, est-ce qu'il faut être heureux pour eux? Ou est-ce qu'il faut le déplorer, qu'ils croient de telles choses? Je vous dis, ils sont heureux, c'est un peu le thème de l'imbécile heureux. Je veux dire, ils croient n'importe quoi, mais ça leur fait du bien quelque part, oui. C'est pas totalement satisfaisant quand même. Enfin, moi, j'avoue que je suis un adversaire inconditionnel des indulgences. Je le demeure. Et j'ai vu Benoît XVI récemment rappeler leur bien fondé. Là non plus, je ne suis pas d'accord avec Benoît XVI. Mais enfin, il est rare que je me sente très proche de sa sainteté. Ceci dit, là on est évidemment dans un aspect qui pourrait facilement être polémique et caricatural,
oui,
et je ne veux surtout pas me moquer. J'y prends un certain plaisir, mais je ne...
Alors peut-être...
Mais non, mais... non mais ce que je veux dire, non mais de façon moins polémique, de façon moins polémique, si je peux. Ce qui bascule au XVIe siècle, c'est effectivement, comme vous le dites, c'est la relation entre les vivants et les morts. Que cette relation entre les vivants et les morts bascule au XVIe siècle, ça explique, à mon avis, la dureté de la réforme protestante.
Et la dureté des polémiques.
Et la dureté des polémiques.
Parce qu'elles sont vraiment...
C'est parce qu'il y a un certain nombre de gens, dans le fond, qui sont tout à fait estimables et qui se trouvent d'un seul coup dépossédés de leur mort. Et c'est ça ce que traduit Thomas More,
qui n'est
pas absurde. On n'est plus dans le même registre que tête seule, nous sommes bien d'accord. C'est de dire, de toute façon, vos morts, vous ne pouvez plus rien pour eux. Comme on le dit souvent dans le milieu protestant en citant l'Écriture, laissons les morts enterrer les morts. Ça, c'est un point de vue protestant. Et ça demeure un point de vue de protestant. Et c'est quelque chose qu'il faut réaffirmer à l'heure actuelle, parce que je reste convaincu que c'est une proposition très forte et qu'il y a toute une manipulation de la mort, il y a toute une industrie de la mort que je trouve personnellement insupportable.
Oui, alors que certainement d'un point de vue catholique, on peut encore vivre avec ses morts et les honorer et avoir des autels pour les saints et on se sent... Une communauté, la communauté dans le corps du Christ, de tous ceux qui vivent, soit vivants, soit morts, et qui un jour se retrouveront. Et c'est ça qui perdure et qui est une espèce de consolation et qui s'exprime de façon souvent très kitsch, il faut bien avouer, mais qui fait plaisir, qui console. Et je crois que ça, ça a bien été mis en valeur par Eamon Duffy, notamment quand il essaie de montrer la valeur qu'avait l'Église catholique et qu'elle... Et tout ce sentiment de joie qu'ils ont perdu lorsque le protestantisme est arrivé, a dépouillé les autels, a cassé les vitraux, et finalement, on n'avait plus ni musique, ni plus rien, et cette consolation était partie. Alors, c'est vrai aussi, c'est en tant qu'historien qu'on peut, qu'on peut mieux les comprendre plutôt qu'avec des arguments raisonnables, parce que ça n'est pas très raisonnable non plus, hein, que de brûler des cierges peut-être pour se sentir mieux.
Non, mais ce qui est très important derrière tout cela, justement, si on n'est pas dans un registre qui est le registre de la polémique, au XVIe siècle, on est dans le registre de la polémique. Bon. C'est de voir qu'on a deux christianismes. On a un christianisme de la continuité.
Oui.
C'est le catholicisme. C'est peut-être une valeur. Il faut voir aussi que ce christianisme de la continuité, très souvent, il tente à se fondre dans le folklore.
Oui, c'est sûr.
C'est aussi un autre aspect. Et puis, on a un christianisme de la rupture. Et je crois que Calvin est véritablement l'homme de la rupture. Et le moment où il exprime le mieux, c'est dans cet extraordinaire brûlot qui s'appelle le Traité des Reliques, qu'il publie en 1543, et qui dit non, il faut être impitoyable avec l'idolâtrie. Et donc, pour Calvin, effectivement, eh bien, il vaut mieux, d'une certaine façon, alors on n'est pas dans une perspective esthétique, mais il vaut mieux détruire, à la limite, il n'est pas pour l'iconoclaste, mais il vaut mieux, à la limite, détruire les vitraux que de se croire sauvé parce qu'on a regardé le vitrail. Et il y a là quelque chose de très important pour Calvin, qu'il applique, effectivement, aux reliques, dans ce traité qui est moqueur, qui est vraiment d'un humour extraordinaire, il y a un passage sur le Saint-Suaire. Vous voulez que je vous lise
là ? Oui, tout à fait.
Alors, je vous rassure tout de suite, il n'y croyait pas. Vous voulez que je vous lise un peu de Calvin ?
Ah oui. Moi, je dirais un petit peu de Cotteret.
Bon, écoutez, nous avons de bonnes lectures. Il est temps de traiter du suaire, auquel ils ont encore mieux montré tant leur impudence que leur sottise. Car outre le suaire de la Véronique, qui se montre à Rome en l'église de Saint-Pierre, et le couvre-chef que la Vierge Marie, comme ils disent, mit sur les parties honteuses de notre Seigneur, qui se montre à Saint-Jean de Latran, lequel aussi bien est d'air-chef aux Augustins de Carcassonne, item, le suaire qui fut mis sur sa tête au sépulcre, qui se montre là même, il y a une demi-douzaine de villes, pour le moins, qui se vantent d'avoir le suaire de la sépulture tout entier. Comme Nice, ça c'est le suaire de Turin maintenant, comme Nice, celui qui a été transporté là de Chambéry, item Aix en Allemagne, item Trèves, item Besançon, item Cadouin en Limousin, item une ville de Lorraine, assise au port d'Aussois, sans les pièces qui en sont dispersées d'un côté et d'autre, comme à Saint-Salvador en Espagne et aux Augustins d'Albi. Je ne vais pas vous lire, évidemment, tout ce texte, et c'est bien regrettable, mais voilà, voilà, voilà du Calvin. C'est-à-dire que là, on a une forme de dérision qui consiste à mettre bout à bout, effectivement, toutes ces formes de dévotion pour montrer leur profonde inanité et montrer qu'elles sont contradictoires. Il y a là un type d'écriture qui est très juridique. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est ce Calvin, homme de loi, qui instruit le procès de l'idolâtrie. Alors, est-ce que les reliques sont nécessairement idolâtres, etc. Ça n'est pas un débat d'historien. Ça, c'est une question de conviction personnelle. Mais ce que je trouve intéressant derrière tout ça, c'est que l'idolâtrie, qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie ? L'idolâtrie, il y a un autre mot que l'on n'utilise plus maintenant, mais qu'on utilisait beaucoup du temps de ma jeunesse sauvage et auquel je reste tout à fait attaché, c'est le mot aliénation. Et donc, ce que Calvin poursuit dans son traité des reliques, c'est l'aliénation. Et vous savez, à l'heure actuelle, s'il fallait écrire un traité des reliques, on parlerait sans doute encore de quelques reliques, mais il y aurait beaucoup d'autres choses dont on parlerait, en particulier sur le plan audiovisuel. Parce que je crois que l'aliénation, à l'heure actuelle, elle est aussi télévisuelle, entre autres. Et donc, on a effectivement chez Calvin une radicalité de la pensée qui, à mon avis, est religieuse, mais qui va au-delà du religieux. C'est qu'on a véritablement, lorsqu'il parle du traité des reliques, une théorie de l'aliénation.
Et c'est pourquoi vous dites que ce que Calvin reproche le plus au catholicisme, c'est son paganisme.
Totalement.
Alors ça m'a quand même choqué quand je l'ai vu. Puisque justement, si on n'est pas païen, c'est qu'on est catholique, qu'on est chrétien. Donc le catholicisme se sentant accusé de paganisme, ça va un peu loin, quoi. Donc c'est...
Oui, mais bien sûr. Mais là, on est dans un registre qui est polémique.
Oui, oui. Bon. Je l'ai bien aussi.
À mon avis, ça va beaucoup plus loin. Et Calvin ne se contente pas, quand vous prenez le traité des reliques, Calvin ne se contente pas de se moquer des catholiques. D'abord, il se moque du catholicisme. Pourquoi ? Parce qu'il vient du catholicisme. Donc il a besoin de rompre les amarres. Ça, c'est une dimension aussi de ce texte que j'ai essayé de mettre en valeur dans l'édition que j'ai faite pour Marc Chaleil. Il y a une des formes de dévotion dont il parle, c'est les dévotions au crâne de Sainte Anne. Parce que lui-même dit dans ce texte, il y a deux mots, où il parle de sa mère. Quand vous savez que Calvin a perdu sa mère quand il avait 6 ans, vous imaginez un peu ce que ça pouvait signifier pour lui. Donc Calvin dit dans ce traité des reliques, « Avec ma mère, j'allais embrasser le crâne de Sainte Anne. » Et donc, on a véritablement là quelque chose qui est de l'ordre, pour quelqu'un qui est très avare de confidences, quelque chose qui est de l'ordre de la confession. Voilà ce que moi-même j'ai fait dans mon enfance, ce que nous dit Calvin. Donc, le traité des reliques, ce n'est pas un traité qui est dirigé contre l'autre religion, c'est aussi un traité qui est dirigé contre toutes les formes d'idolâtrie qui se constituent et qui se reconstituent dans le christianisme. C'est-à-dire, l'idolâtrie, s'il s'agissait de dire simplement l'idolâtrie, c'est l'autre, c'est un peu comme l'enfer, c'est les autres,
oui, oui.
Ce serait trop facile. Et ce n'est pas du tout ce que dit Calvin. Ce que dit Calvin, c'est attendez, votre religion, en permanence, crée de l'aliénation. Votre religion en permanence recrée des idoles. Et là, il y a quelque chose de très fort. Parce qu'effectivement, il faut peut-être réformer la réforme elle-même, comme le disait cet excellent Milton au XVIIe siècle. Vous en restez sans voix.
Effectivement. Oui, j'aurais voulu vous interroger sur Sola Fide. Mais peut-être que...
Oui,
c'est ce côté sans aide, comment faire pour croire, pour vivre une spiritualité quand on est un petit peu seul vis-à-vis du texte et qu'on manque de cette communauté justement qui rassure la, les catholiques et la tradition.
Moi, je crois qu'il y a une erreur de perspective sur le protestantisme du XVIe siècle, sur la réforme du XVIe siècle, auquel on a souvent donné, en fait, prêté des caractères qui sont des caractères du XIXe siècle. Et je crois que vous savez, il y a par exemple cette chose que l'on dit très souvent, il y a le phénomène de la lecture. On voit la lecture et on interprète ipso facto la lecture comme un phénomène d'abord silencieux et ensuite solitaire. Et je crois que la lecture de la Bible au XVIe siècle peut être effectivement une lecture silencieuse et une lecture solitaire, mais très souvent c'est une lecture aussi qui est une lecture collective. Et d'ailleurs, elle continue à être une lecture collective. Ce qui veut dire que je crois qu'il ne faut pas tirer indûment le protestantisme du XVIe siècle dans le sens de l'individualisme. Je crois que ça, c'est une erreur d'interprétation et que donc il y a dans il y a un aspect très collectif dans le protestantisme du XVIe siècle, peut-être même tellement collectif qu'à la limite, il nous ferait peur à l'heure actuelle. Mais quand vous voyez vivre ces communautés, on est véritablement dans ce qu'on a appelé la civilisation du face-à-face. C'est-à-dire que ces gens qui sont en permanence sous le regard les uns des autres. Donc il faut bien voir la réforme du XVIe siècle comme un phénomène éminemment collectif. Enfin, je n'entre pas dans tous les détails, mais je crois que c'est un des éléments d'explication, encore une fois, historique.
Et alors, vis-à-vis de Luther, par exemple, est-ce qu'on peut penser que les communautés qui étaient peut-être plus organisées avec Calvin ont justement eu une cohésion plus forte ?
La réforme luthérienne a été très différente dans ses modalités. Parce que c'est une réforme qui s'est appuyée sur les princes. Alors que Calvin aurait bien voulu d'ailleurs s'appuyer sur François Ier, mais enfin, ça n'a pas eu lieu. Donc il appelle désespérément François Ier et avec un peu moins de conviction Henri II à soutenir la réforme, et vous savez que ça n'a pas eu lieu. Donc il y a là, à mon avis, sur le plan historique, la différence fondamentale. Si on voulait aller au-delà de ces simples différences qui sont dans le fond des différences très 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 politiques, on verrait que la grande caractéristique de Calvin, je crois que c'est sa radicalité. Il y a une radicalité de la pensée théologique de Calvin qui me paraît beaucoup plus systématique que dans la pensée de Luther. Mais encore une fois, je suis un grand admirateur aussi de Luther.
Et à l'époque, en tant qu'historien, peut-on vous poser des questions concernant Zwingli, tout ce qui s'est passé en Suisse, au moment de Zwingli à Zurich, et puis de Calvin à Genève? Est-ce que vraiment, il y avait tant d'opposition que cela, ou est-ce qu'ils allaient quand même un petit peu dans le même sens?
Non, je crois que la réforme est un phénomène particulièrement intéressant parce que la réforme à chaque fois a des colorations qui sont des colorations nationales ou locales. Et en même temps, sur un certain nombre de points fondamentaux, tous les réformateurs se retrouvent. Alors, quels sont les points fondamentaux? Alors, je ne vais pas ici faire un cours de théologie, mais je crois que l'un des points fondamentaux, en tout cas pour les historiens, qui est lourd de conséquences, c'est dans le catholicisme du XVIe siècle, et c'est réaffirmé évidemment par le Concile de Trente, qui est une révision doctrinale contre le protestantisme. Dans le catholicisme du XVIe siècle, on a une insistance toute particulière sur le sacrifice et sur la réitération du sacrifice, sur la répétition du sacrifice. Et le catholicisme en vient à mettre cette répétition non sanglante, selon les termes du Concile de Trente, du sacrifice du Golgotha, au cœur même de sa liturgie, puisque qu'est-ce que c'est que la messe, sinon une mise en scène du sacrifice. Que fait le protestantisme à ce moment-là? Il récuse effectivement cette mise en scène du sacrifice et proclame à la suite de l'Épître aux Hébreux, que ce sacrifice a eu lieu une fois pour toutes et qu'il ne saurait donc être répété. Alors vous me direz, là on est dans des arguties un peu de théologien, mais pas du tout, parce que à partir du moment où on n'a plus de sacrifice, on n'a plus non plus de sacrificateur. Évidemment, comme l'aurait dit je ne sais plus quel chansonnier, il faut bien que ces gens la bouffent. Vous comprenez ? Si vous n'avez plus de sacrificateur, vous n'avez plus de prêtre.
Oh. Alors c'est la fin du dolorisme aussi, puisque peut-être on prend plaisir.
Il faut recycler le clergé. C'est pas facile de recycler. Alors en Angleterre, on a essayé avec Henri VIII de recycler quelques bonnes sœurs.
Oui.
Alors ce qu'on ne dit pas très souvent, c'est qu'on leur disait « Vous ne devez quand même pas vous marier !» Ça, c'est Henri VIII. Oui. Enfin, Henri VIII n'avait pas une théologie toujours impeccable.
Il s'arrangeait un peu. Oui.
Non, mais si vous voulez, quand vous prenez cette société encore médiévale, que vous imaginez le poids sociologique de l'Église, cette Église qui détient quand même une puissance fabuleuse, qui est le premier propriétaire foncier, un peu partout en Occident. Quand vous leur dites, quand vous vous tournez vers les prêtres et que vous leur dites d'un seul coup, on n'a plus besoin de vous, ça leur fait un choc quand même.
sûrement.
Et je crois que si vous voulez, il faut voir derrière ce débat de théologiens, est-ce qu'il y a un sacrifice, est-ce que le sacrifice peut être répété, etc. Là, il y a autre chose, il y a une dimension éminemment sociale. C'est qu'à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on a encore besoin d'un clergé ?
Oui, mais on vous répondra qu'on a besoin d'un moment de sacré dans sa vie et que la réitération du sacrifice, c'est revenir au sacré. Et qu'on a l'impression, lorsqu'on est du côté catholique, que le sacré a disparu.
Oui, exactement. Et c'est là que les catholiques, effectivement, encore à l'heure actuelle, ont du mal à comprendre la spiritualité protestante. Oui. C'est qu'ils cherchent le sacré dans des lieux consacrés, si j'ose dire, alors que pour les protestants, le sacré est partout.
Voilà. Oui.
C'est pas qu'il disparaît, c'est qu'il est partout.
Et c'est peut-être ça qui serait intéressant pour un catholique d'apprendre.
Oui.
Et de savoir comment, maintenant encore, on peut être, j'allais dire séduite, et c'est sans doute faux, mais attiré par un calvinisme à l'heure actuelle, et qu'est-ce qu'il a à nous apporter à ce moment-là. Alors moi, je veux bien écouter ces arguments-là.
Il y a des tas de gens plus informés que moi qui pourront vous expliquer tout cela.
Oui.
Moi, je ne peux pas vous dire ce qu'un catholique peut en tirer. Je crois qu'il peut en tirer quand même un certain nombre de choses. D'abord, Calvin est un grand écrivain.
Ça, oui.
Bon. Donc, je crois qu'un catholique doit impérativement lire les grandes œuvres de la modernité, personnellement, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt Ignace de Loyola, Thomas More, un certain nombre d'autres. Et je crois que Calvin, pour des simples raisons de culture, mérite effectivement d'être lu par des catholiques. Premièrement. Deuxièmement, dans sa radicalité, la pensée de Calvin est une pensée qui force la réflexion. Alors, même s'il ne s'agit pas d'être d'accord avec Calvin, mais on ne peut pas ne pas penser avec lui. Je veux dire, il pose des questions. Alors après, les réponses que vous donnez, dans le fond, est-ce que vous lisez pour trouver des réponses ou est-ce que vous lisez pour trouver des questions ? Moi, je lis essentiellement pour trouver des questions. Voilà. Et Calvin aide à poser des questions. Voilà. Alors après, il y a des tas de bêtises sur lesquelles je ne veux pas revenir. Je ne sais pas qui me disait, une amie qui me disait, ces enterrements sikhs, ces enterrements protestants, comme c'est triste.
Oui.
Les enterrements catholiques étant d'une grande joyeuseté.
Oui.
Les protestants ne savent pas faire la cuisine, ça, c'est pas vrai. Enfin bon. Il y a un certain nombre de lieux communs, ils n'ont pas d'art, c'est totalement faux. Je veux dire, bien sûr qu'il y a un art protestant, il y a une peinture protestante, il y a une musique protestante, enfin, on peut vous donner de nombreux exemples. Il y a moins d'art sacré protestant, il y a C'est vrai que la notion d'art sacré est moins développée. Il n'y a pas beaucoup de Madone, bon, etc. Mais enfin, Rembrandt, c'est pas mal non plus.
Oui.
Ah oui, ça c'est autre chose.
Oui.
Farel s'est rétabli avec une jeunette, vous le savez. Oui, je suis très très bonne question. Nous avons parlé pour l'instant d'un Calvin hyper intellectuel, et c'est vrai que c'est quand même ce que l'on retient d'abord de Calvin. Lorsque j'ai écrit ma biographie de Calvin, j'avais un but qui était très précis, c'était justement de rendre un corps à Calvin. C'est comme ça que je l'avais exprimé, en montrant ce caractère charnel, en fait, de l'homme, que très souvent on oublie totalement, son enracinement picard, son enracinement français, ses amitiés, son épouse, puisqu'il se marie. Je crois qu'il y a un Calvin qu'il fallait absolument restituer. Alors on pourrait en parler de façon très 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 longue. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé chez Calvin, c'était de voir à la fois sa fragilité physique, qui est absolument incontestable, et la force de sa conviction et la force de sa détermination. Je crois que c'est quelqu'un, effectivement, qui a été d'une certaine façon héroïque dans son ministère, qu'il a accompli jusqu'au bout avec beaucoup de force et beaucoup de conviction, sans être, comme on l'a dit très très souvent, une espèce de dictateur tyrannique. Ça, c'est absolument faux. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais c'est vraiment une légende noire qui a été construite post-mortem en grande partie. Et donc, on a un personnage qui est un personnage tout à fait intéressant, tout à fait attachant, et qui, en même temps, contrairement à Luther, est mal connu. Il y a là un paradoxe, c'est que, comme me le disait un ami après une émission de radio, ça n'était pas Radio Notre-Dame cette fois-ci. maintenant, nous allons prendre un verre. Est-ce que vous aimeriez aller prendre une bière avec Calvin ou avec Luther? Évidemment, la réponse est avec Luther, parce que ce gros Allemand buveur de bière, ça, voilà, c'est comme ça, c'est plus émoustillant que Calvin, du moins à première vue. Ceci dit, je serais peut-être allé prendre un petit blanc sec avec Calvin. Oui, moi je vais vous dire, il y a beaucoup de textes de Calvin. Il y a un texte admirable qui est à nouveau, enfin qui est enfin accessible dans une version tout à fait restituée, qui est l'institution de la religion chrétienne, donc chez Drault, que vous avez, je crois, dans votre fond, j'ai vu ça tout à l'heure. Ça, c'est vraiment l'une des œuvres les plus admirables, parce que c'est un grand traité de pensée politique aussi, et que toute la politique moderne n'est pas concevable sans ce texte. Alors, c'est la politique moderne, ça veut dire Hobbes, ça veut dire Jean-Jacques Rousseau, ça veut dire... Oui. Bon, il faut, à mon avis, avoir lu Calvin et ce qu'il dit de la loi et du droit pour comprendre la politique moderne. Bon. Et puis, il y a un Calvin qui est facétieux, mais qui, à mon avis, est beaucoup plus profond qu'on ne croit, qui est celui du traité des reliques. Moi, je crois qu'on peut commencer par les traités des reliques. Et là, on a effectivement un Calvin très incisif et très, très moqueur. Alors, est-ce que Calvin était violent? Oui, il y a une violence incontestable de Calvin. C'est essentiellement une violence verbale. Les bûchers, il y a un bûcher, alors il y a un livre du pasteur Schmitt précisément sur cette affaire Servet et sur les réactions de Castiglione, c'est qui vient de sortir, le livre vient de sortir, c'est un merveilleux livre qui sort ces jours-ci, hein, que j'ai ici, tenez, voilà, que vous avez aussi dans votre fond. Alors, cette histoire de Servet, oui, effectivement, on a brûlé Servet. Alors, pourquoi est-ce qu'on a brûlé Servet? Alors, il y a quelque temps, dans une émission qui était une émission pieuse, on m'avait fait la question, pieuse protestante, je précise, les deux n'étant pas inconciliables, hélas.
La provocation, ça.
Dans une émission pieuse. Donc, on m'avait dit, ah, c'est très mal ce qu'a fait Calvin. Pourquoi est-ce qu'il a fait une chose aussi horrible, faire brûler quelqu'un, etc., etc. Alors, j'ai répondu, ce qui, à mon avis, tombe sous le sens, on a brûlé Servet parce qu'il fallait démontrer qu'on était la vraie Église. Mm-hmm. Oh, tout de suite, ça a été éliminé, évidemment, c'était à la télévision, on a éliminé ça de... la version donnée au public pour qu'on puisse pas croire des choses aussi horribles. Mais ce que je veux dire très fondamentalement, c'est que qu'est-ce que fait une église au XVIe siècle? Elle enseigne, elle distribue les sacrements et elle brûle.
Oui, oui.
L'église, ça brûle.
Oui, oui.
La vraie église, craque, ça fait des ravages.
Bien sûr.
C'est-à-dire une église définit une marge hérétique.
Oui, c'est ça.
Il vaut mieux ne pas se trouver parmi elles.
Oui, oui.
Et ce qui se passe avec Servet, à la décharge de Calvin, c'est quand même très exceptionnel. C'est-à-dire, on n'en a pas brûlé beaucoup. Ah. On en a brûlé beaucoup moins que de l'autre côté.
Certainement.
Mais certainement. Il arrivait aussi que l'on brûlât un peu ses adversaires. Oui. Non.
C'est ça.
Oui. Non. Il était enroué. Il était enroué. Alors, il y a une autre raison. Quand vous prenez les pièces du procès, Michel Servet était un provocateur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui teste en permanence ses adversaires et qui voit jusqu'où il peut ne pas aller. Et effectivement. Il a eu droit à une réaction qui était une réaction d'église au sens du XVIe siècle. Et je crois que, voilà. Alors, c'est pas du tout pour... Alors, il y a quelques temps, on m'avait dit, vous disculpez Calvin. Je disculpe personne. C'est pas mon problème. Mon problème, c'est de faire de l'histoire. Oui. Expliquer que pourquoi, effectivement, eh bien, dans l'église, les églises du XVIe siècle continuent à brûler ceux qu'elles considèrent comme des hérétiques. D'ailleurs, on a brûlé Servet, uniquement Servet, et on a brûlé beaucoup plus de sorciers et de sorcières à Genève à la même époque.
Oui.
Ce que je dis dans mon livre. Donc le procès de sorcellerie, ça existe dans la Genève du XVIe siècle, bon, comme dans l'ensemble du monde. C'est pas une spécificité de Calvin, ni une spécificité calviniste. Je dirais que c'est ce que Calvin et la Genève du XVIe siècle ont en commun avec l'ensemble de la civilisation chrétienne,
bien sûr, oui.
Malheureusement. Appelons-la comme ça.
Dès que quelqu'un se... targuait de croire différemment. Bien sûr, on pensait que c'était le démon, c'était Satan qui l'avait inspiré, et donc il fallait très vite, avant qu'il ne fasse des émules, s'en débarrasser. C'était une forme de purification qui, évidemment, maintenant est complètement remise en cause. Mais les catholiques...
On va y revenir, vous allez voir.
J'espère que non. Il faut le comprendre dans l'époque, c'est certain. Sinon,
non, mais c'est profondément choquant. Oui. C'est profondément choquant, mais je veux dire, dans le contexte du XVIe siècle, c'est banal. Mmh. Et effectivement, à Genève, ça reste exceptionnel. Mmh.
Il y a encore
une ou deux dernières questions. Et j'aurais voulu savoir qui était Thomas More. Et en fait, c'est un héros du XVIIe. Ah, d'accord. Alors, Thomas More était un homme de loi et qui est devenu chancelier d'Angleterre, donc l'équivalent de notre premier ministre maintenant sous Henri VIII. Et lorsque Henri VIII a voulu divorcer de Catherine d'Aragon, il a voulu avoir l'aval du pape qui souhaitait l'annulation de son mariage. Le pape et les papes qui se sont succédés n'ont jamais répondu favorablement. Et donc lui a dit, quelque sorte, le pape, c'est moi qui serai le chef de l'Église maintenant. Et Thomas More, qui était son chancelier, a démissionné, car il n'était pas du tout d'accord d'abandonner le pape et d'accorder à quelqu'un qui n'était pas sacré par Dieu, pensait-il, de le reconnaître comme chef de l'Église. Donc, Henri VIII s'est autoproclamé chef de l'Église et il a demandé à tous ses citoyens, à tous ses sujets, de signer, de prêter serment et d'admettre cela. Et Thomas More, avec quelques-uns, ils étaient très rares, a refusé de prêter serment, a refusé de signer et jusqu'au bout est allé nier le fait que ce soit possible pour un roi de se proclamer chef de l'Église. Car pour lui, l'important était que l'Église soit justement la fille de la tradition et que, comment dire, tous les conciles qui avaient eu lieu depuis les premiers siècles entérinaient une pensée qui se continuait et qui était, selon lui et selon beaucoup, inspirée par l'Esprit Saint. Et donc les décisions qui étaient prises étaient des décisions, disons, validées par l'au-delà. Si l'on veut, moi je vois ça un peu comme ça. Donc il est allé jusqu'au bout et voyant le martyr arriver, finalement il ne l'a pas fui. Henri VIII s'est montré jusqu'au boutiste également, car finalement il lui a fait couper la tête. Donc il a été proclamé martyr et saint, mais seulement en 1965. Bien tard, voilà, mais c'est ce qui s'est passé.
Juste un mot sur le contenu d'Utopia.
Oui. Alors, en 1516, Thomas More a écrit un petit, on pourrait presque dire un roman, il n'y en avait pas encore à l'époque, une histoire qu'il a écrite en deux livres, le premier étant un dialogue qu'il a inventé entre des personnages existants et puis un personnage fictif qui revenait d'un pays imaginaire. Et ce pays imaginaire, après, il l'a décrit dans le deuxième livre, ce Raphaël Islaudet, et c'était une île qu'on trouvait quelque part très loin. Donc évidemment, on était à l'époque aussi où on avait découvert, on avait commencé à faire le tour du monde, on avait découvert l'Amérique. Et il a décrit une île où les gens vivaient presque dans la perfection. Et c'était ça qui avait fasciné. Thomas More a été fasciné par une idée qu'il avait d'une cité idéale qui est évidemment l'antithèse de l'Angleterre du XVIe siècle qu'il vivait. Donc il a opposé presque sur chaque point l'Angleterre qu'il connaissait à cette cité idéale où les gens étaient tous des sages et savaient remettre dans le droit chemin ceux qui erraient, pensait que l'or était vil et donc on en faisait des pots de chambre. Et puis on le donnait aux enfants pour qu'ils s'amusent parce qu'ils connaissaient mieux, ils avaient les vraies valeurs et ils savaient que la sagesse se trouvait ailleurs. Donc cette île peuplée de gens qui ne connaissaient pas le Christ, mais qui avaient déjà une intuition d'une personne divine de cet ordre, vivait déjà assez saintement, disons. Et il a inventé cette utopie qui veut dire « ou topos », c'est-à-dire « qui n'existe nulle part ». Voilà, ou pour le négatif et topos pour le lieu. Donc il a inventé le mot. Et il a écrit en latin. Et donc on le connaît beaucoup plus évidemment sous ses traductions diverses.
Ce qui est intéressant chez chez Thomas More, c'est que lui-même, en tant que chancelier, pense qu'il faut brûler les hérétiques. Je veux dire qu'il faut bien voir que si lui-même a été victime de la raison d'État, il était prêt à appliquer toute la violence de la loi anglaise de cette époque-là contre les hérétiques.
Et il l'a fait. Oui, il l'a fait. Plusieurs hérétiques brûlés sous ses ordres, puisqu'il était chancelier. Donc
l'autre
chose,
moi, qui me séduit chez ce personnage, c'est qu'il a été canonisé deux fois. Il vaut mieux deux fois qu'une. Et il a été canonisé d'abord par le marxisme-léninisme.
Ah, c'est vrai. Oui,
qui a vu dans Thomas More l'un des grands ancêtres de ces théories. C'est quand même extraordinaire.
Puisque dans l'île d'Utopie, personne ne possédait rien. Tout était à tout le monde. Donc on était déjà dans le communisme.
Puis par la Sainte Église.
Et la Sainte Église.
Et vous savez, il y a peu de gens auxquels arrive un tel bonheur.
Ça, c'est juste. Oui, oui, il a été l'objet de récupérations multiples. Ça, c'est vrai. Mais les philosophes s'y intéressent toujours beaucoup. Pourtant, quand on voit l'utopie, quand on vous la décrit maintenant, on n'a pas tellement envie de vivre en utopie, parce que c'est un petit peu une forme de prison ou une forme de couvent. Mais le couvent l'attirait beaucoup. Il pensait que c'était une façon magnifique de vivre. Mais il y a des choses très modernes. Par exemple, l'euthanasie n'est pas écartée, le divorce non plus, et les...